Merci. Bonjour à chacun. Je suis trop contente de pouvoir partager le message aujourd'hui. Et c'est un plaisir. Je m'attends vraiment au Seigneur d'une manière toute particulière et j'aimerais que vous puissiez me permettre d'introduire en fait mon temps de message. C'est pas le début de mon message, mais c'est juste pour vous mettre en condition par un témoignage de ce que j'ai vécu en fait dans le dernier culte la dernière fois. Et je sens que j'ai ma voix enrouée, j'ai tellement chanté pour le Seigneur. Excusez-moi. Alors que j'étais dans la louange il y a deux dimanches et je disais à Dieu, mais Seigneur, donne-moi, je suis à ton écoute pour le message d'aujourd'hui que je vais vous délivrer. Et j'étais là, Seigneur, viens, parle-moi et je suis toute ouverte à toi. Et à un moment donné, j'ai vu en vision, en fait, trois anges de chaque côté de moi, des êtres habillés de blanc qui avaient des lances. Et j'ai tout de suite saisi en fait que Dieu mettait ces anges comme une protection pour moi. Et ben, je me suis sentie vraiment touchée et c'est comme si Dieu pouvait me dire « Lâche, t'inquiète pas, je suis là. » Et ces anges sont là pour ta protection et ta sécurité. Et voilà qu'il y a deux jours, je parlais à David du culte qui allait venir et j'ai dit « Tu sais, le dernier culte, là, j'ai reçu une image d'ange. » Il me dit « C'est pas vrai. » Il me dit, mais écoute, en préparant le temps de culte, Dieu me disait et me rassurait qu'en plus de sa présence, des anges seraient dans la pièce, des anges seraient placés autour de la salle. Et on s'est tellement réjouis de cette coïncidence, en fait, que lui, Dieu lui promettait des anges et que je les avais vus. Et c'était tellement fort, on était tout excités, on était tout tellement réjouis. Et en fait, je crois que c'est une réalité spirituelle que Dieu aimerait placer autour de chacune de nos vies. Cette protection, cette sécurité. Parce que je crois qu'aussi aujourd'hui même, Dieu veut agir dans vos vies profondément et vous avez besoin, et j'ai besoin, de me sentir en sécurité. Et il place justement ces anges pour que cette présence de Dieu soit vraiment tangible et manifeste comme une sécurité, une paix, pour que lui puisse venir profondément agir. Alors je me réjouis de ce que Dieu va faire aujourd'hui et de ce qu'il a déjà commencé pendant la louange, il va le poursuivre. Et je suis convaincue que même si mon message sera simple ce matin, que Dieu veut manifester toute sa puissance parce qu'il y a une conséquence, il y a une répercussion spirituelle. Si Dieu place des anges dans la salle, c'est qu'il y a quelque chose à faire pour eux. Et c'est quelque chose de glorieux et je m'en réjouis. Voilà, maintenant j'aimerais commencer mon message dans le vif du sujet. Je vais débuter par vous poser une simple question, mais je n'aimerais pas forcément que vous me donniez la réponse, que chacun prenne la parole tout azimut comme ça. Juste gardez ça dans votre cœur. La première question, c'est qui a déjà eu des soucis dans sa vie? Voilà. Qui a ressenti une fois des anxiétés, c'est un peu une perte de contrôle, face à une accumulation en fait, d'inquiétude? Qui a déjà eu même des sensations d'oppression, de lourdeur, de poids qui t'écrasent? On parle aussi de charge mentale. Une charge mentale, c'est quand vos pensées et vos émotions sont tellement surchargées par tout ce que tu dois planifier, gérer et faire, que finalement, tu as l'impression que ta tête, elle bourdonne et tu as même cette impression d'être essoufflé. Physiquement, il y a une réaction de ton corps qui réagit à ce stress mental, à cette charge mentale. Certains aussi passent par des temps de burn-out. Alors ça, c'est l'extrême aussi d'un épuisement physique et psychique qui génère des sentiments d'impuissance, de ne plus pouvoir y arriver, de désespoir. Et ça a des conséquences sur les relations sociales, sur le travail, comment on peut le faire. Finalement, il y a un épuisement tel que j'ai connu quelqu'un, il ne pouvait même plus aller pousser son caddie au magasin tellement que il y avait une rupture en lui. Et c'est ça le burn-out, c'est une accumulation de stress et finalement ça devient profond, profond physiquement et profond psychiquement. Alors, je pense qu'on peut tous se reconnaître dans une ou l'autre de ces aspects, enfin, dans l'un ou l'autre de ces aspects que je viens de décrire. Alors, je vous rassure, je ne connais pas le vécu de chacun. Je ne suis pas prophète extrême dans le discernement. Je cherche à connaître des choses de Dieu, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas pour cette raison que je vous dis ça. Mais je crois que c'est aussi la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que la société nous pousse à adopter une vie surchargée, à vivre à 1000 à l'heure, à suivre la cadence de notre vie professionnelle, nos loisirs, notre vie de famille, à cumuler plein de choses. Et toujours être au mieux, toujours être au top et toujours aller plus rapidement. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Ben, il me semble que c'est comme ça que la vie se déroule dans nos jours. Et ce matin, j'aimerais pas qu'on reste bloqué en fait sur cette introspection, puis se dire waouh, elle a posé des questions sur moi-même et qu'on reste bloqué sur ce sujet-là. Mais j'aimerais qu'on voit ensemble en fait comment Jésus répond à cette problématique du stress. Mais avant ça, j'aimerais juste prier pour ce temps. Seigneur, nous te remercions pour la présence du Saint-Esprit qui nous environne en ce moment. Nous désirons maintenant nous focaliser sur toi et chercher tes ressources, tes révélations dans ta parole. Et nous te donnons à nouveau les clés de nos cœurs et nous te disons oui à ta volonté. Amen. Tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne ensemble un passage qui nous parle de la visite de Jésus chez Marthe et Marie dans Luc 10. Ah voilà. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et l'écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Alors c'est un passage qu'on connaît beaucoup, on le connaît bien, on l'a vu un peu sur toutes les coutures, mais il y a certains aspects qui m'ont interpellée, et c'est pour ça que j'avais envie de le reprendre. Marthe accueille chez elle Jésus, ce Jésus, le Messie, le Seigneur, le Prince de la Paix. Elle a une attitude tellement de gratitude par rapport à Jésus, elle a ce sens du devoir, peut-être c'était culturel, mais elle a envie d'honorer Jésus. Et par un bel accueil, par son service. Et c'est tout à fait louable, hein, on est d'accord, c'est tellement normal. Moi, je pense que je réagirais pareil. Dans ce passage, j'ose imaginer en fait que Marthe, elle commence à s'exciter en cuisine pour que tout soit parfait pour Jésus. C'est quand même le Messie, hein. Mais à un moment donné, rien ne va plus. On pourrait faire une émission, rien ne va plus en cuisine. Il y a trop à faire. Alors elle va déranger Jésus, le maître. Elle dérange même aussi les invités parce que je ne sais pas si vous avez perçu, peut-être aussi dans la série The Chosen, on voit que Jésus n'est jamais seul. Il y a toujours, soit les disciples, des familles qui l'accueillent, des invités à des repas. Donc il est là chez Marthe et il y a sûrement des invités. Et en plus, sa sœur Marie qui sont là à porter toute leur attention, à écouter, à boire les paroles de Jésus. Et Marthe demande à Jésus que sa sœur lui vienne en aide, comme nous dit le texte. Et Jésus s'arrête de parler à ce moment-là. Et il lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un d'inquiet, d'agité et d'angoissé. Parfois, ça me prend, moi, les angoisses. Et j'ai bien l'impression que Marthe était vraiment dans cet état-là. Pour la rejoindre et pour captiver son attention, ça m'a interpellée. J'ai vu que Jésus lui dit deux fois, Marthe, Marthe. Eh oh, Marthe. C'est un petit peu, pour aller la chercher. Elle qui s'agite et qui se, sûrement qui est toute enthousiaste et même stressée, il a dû l'appeler deux fois. Je pense qu'un seul Marthe n'aurait pas suffi. Des fois, David m'appelle et j'entends rien. C'est pas que je suis sourde, j'ai déjà fait des tests, c'est pas ça. Mais je suis tellement affairée. Et là, Jésus, il voit son inquiétude, il voit qu'elle s'agite, il reconnaît son état de stress. Et Jésus lui dit, mais regarde, mais dans quel état alors tu te mets? Alors que Marthe est au calme, à mon écoute, et c'est un choix que personne ne pourra le lui enlever. En disant ceci, Jésus l'encourage à prendre du recul et il l'invite à venir au calme. Au travers de ce récit de Marthe et Marie, on peut souligner un petit peu deux types de fonctionnement de personnalité chez Marthe et Marie qui vont ensuite influencer leur relation avec Jésus. Il y a la raison pour ce qui est de Marthe et il y a le cœur. Marthe a développé une relation avec Jésus avec ce sentiment du devoir faire, du service. Par contre, Marthe, on ne va pas dire par contre, ce n'est pas une opposition. Marthe, elle cherche Jésus dans l'intimité, dans l'écoute, dans une approche de cœur à cœur. Marie, pardon, ouh, merci de me rectifier. Donc, Marthe, le sens du service et du devoir, et Marie, dans l'intimité et l'écoute. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un autre récit qui nous parle de Marie, qui s'est mise à pleurer au pied de Jésus, qui lui a versé un parfum très très cher, qui a essuyé avec ses cheveux les pieds de Jésus. Et vraiment, elle a cette optique de chercher à être très très proche de Jésus, d'être en cœur à cœur avec lui. Alors comprenez-moi bien, Jésus n'est pas contre Marthe, qu'il le sert, qu'il l'accueille activement. Il ne lui dit pas « arrête de faire et viens plutôt m'écouter ». Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « arrête de t'inquiéter et de t'agiter ». Mais Jésus désire une relation de cœur avec Marthe. Il est en train de lui montrer que la loi du devoir faire la pousse finalement à l'agitation, à l'inquiétude, au stress. Et là, ce n'est pas une question d'activisme ou quoi que ce soit, on connaît ça. Mais Jésus, il touche vraiment cette agitation, il touche le point sur l'agitation et l'inquiétude qu'elle ressent. Et je crois qu'aujourd'hui, Jésus veut aussi nous parler par rapport à tout ce qui peut nous remplir d'inquiétude, d'agitation, par rapport à ce qu'on doit faire et ce qu'on doit faire et ce qu'on fait, tout simplement. Comme Marthe, il désire que ton cœur, que mon cœur, retrouve la paix. Proverbe 3, verset 5, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Se confier, c'est faire confiance, une confiance totale finalement. Et cette confiance totale, elle vient du cœur. C'est pour ça que c'est une affaire de cœur. En cherchant à être dans la présence de Dieu, plus encore, à expérimenter la présence du Prince de la Paix qui est Jésus, à se placer, on se place alors dans ce lieu sécur. Et d'ailleurs, Dieu place des anges, même des fois quand on a besoin de cette sécurité, comme je l'ai dit avant, comme l'image que j'ai reçue. Et il nous laisse sa paix. Jean 14 dit, je vous laisse ma paix. Jésus nous dit, je vous laisse ma paix, mais pas celle comme celle dans le monde, en fait. Elle n'y ressemble pas. Du moment où on est touché par la présence de Dieu et qu'il a ensuite accès à nos cœurs, cela va influencer toute notre manière de penser et notre manière d'agir également. Et c'est par l'intimité que résulte l'action sans l'agitation ni le stress. Dieu nous dit par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Veille ce qu'il y a là, sur là-dedans, sur ce qu'il y a là dans ton cœur. Et en fait, en préparant le message, je me suis dit, bon, ben, ce qui est important dans ce verset, c'est veille soigneusement sur ton cœur. Alors je mets juste cette partie-là. Et hop, je regarde mes textes et je me suis dit, mais en fait, Dieu, il dit, mais par-dessus tout, ne l'enlève pas ce par-dessus tout. Faut juste, c'est comme si le Saint-Esprit a souligné ces mots par-dessus tout. Soit, que ce soit ta priorité, veille soigneusement sur ton cœur. En d'autres mots, Dieu ne veut pas qu'on ait une relation qu'intellectuelle avec toi, avec moi, pour qu'on connaisse plein de choses, qu'on ait peut-être plein de versets en tête, et que finalement, on n'ait pas de relation avec lui. Jésus, il nous dit, mais je connais mes brebis, et elles me connaissent. Qu'on puisse rechercher à avoir vraiment cette connaissance de Dieu en relation, pas en intelligence ou en savoir. Savez-vous ce qui se passe quand le stress prend le dessus ? Alors, je vais vous parler un peu de ma vie. Attendez, je prends un chlouk. De manière personnelle, j'ai pu constater qu'il y a la confusion qui vient parfois. Quand on est agité, on devient confus. On peut aussi devenir découragé. Il y a de l'agitation qui vient aussi pour un peu nous faire tourner la tête. On ne sait plus, on va dans un truc, puis après dans un autre, on doit gérer ci, puis on doit gérer ça. Et finalement, on perd le sens des choses qu'on fait. Finalement, il n'y a plus de but. On s'y perd. Alors, je ne parle pas seulement du travail, parce que c'est vrai qu'au travail, on est facilement stressé, mais je parle aussi de notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie de service au Seigneur, notre vie de foi aussi. Et dans ces moments-là, vraiment, le côté humain reprend le dessus. Ça n'a plus de sens, alors qu'est-ce que je fais ? J'abandonne. Je ne gère plus, donc je me retire. Je prends la fuite. Et c'est une réaction un peu légitime, finalement, parce qu'on se dit, mais waouh, là, je suis dans une situation menaçante, et donc un instinct de survie, j'abandonne, je prends la fuite. Dieu nous parle dans Osée 4, 6, que si on manque de connaissances, de sagesse, de compréhension, de vision, son peuple meurt. Et j'aime bien ce texte parce que dans un sens, c'est la même chose. Si je perds le sens de pourquoi je fais les choses, il y a quelque chose en moi qui va comme être perdu sens, je n'y arrive plus, j'ai envie ensuite d'abandonner. Et peut-être qu'il y a même la place pour le sentiment d'être en train de mourir. Alors, est-ce que la fuite est une bonne solution ? Dans nos conseils avec David, on dit jamais de prendre de grandes décisions qui ont des grandes conséquences dans un temps de crise. Pourtant, c'est là qu'on a envie de partir. Parce qu'après, on a des regrets. Et c'est la même chose. Jésus dit, prends du recul, regarde ce qui se passe, prends un moment, prends du recul. Et si tu es en ce moment même en train de vivre des temps de stress qui te poussent vraiment au découragement, ça nous arrive à tous, Jésus ce matin, il veut venir vers toi pour t'appeler par ton nom. Et il le fait deux fois pour attirer ton attention. Et il te dit, extirpe-toi de l'agitation. N'abandonne pas, mais trouve refuge en moi, dans ma présence. Comme Marie a choisi la bonne part, viens vers moi. Et je ressens dans mon esprit qu'il y a un combat en soi, quand on est sous pression, qu'on a envie d'abandonner, qu'on a envie, peut-être même envie de mourir parfois. Parce qu'en fait, à toutes ces émotions qui montent en nous, quand on est agité, angoissé, il y a ce sentiment de honte qui se dit, mais c'est juste pas possible, je ne peux pas abandonner, je peux pas, comment je vais faire ? Et il y a un combat. Et je crois que Jésus, aujourd'hui, il met la lumière sur ce que des fois on ressent dans le secret puis qu'on n'arrive juste pas à gérer. Que ton cœur retrouve la paix. Un cœur en paix retrouve le bon sens et la lucidité. Et j'aime ce verset de Colossiens 3 qui dit droit ça. Que la paix de Christ règne, dirige vos cœurs. Et ce mot diriger, c'est comme un arbitre perpétuel en nous. Et souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a certaines personnes ou entendu plutôt, les gens qui disent, ouais, j'ai signé mon contrat de travail, j'avais la paix. J'ai senti une paix, je crois que c'était une confirmation du Seigneur. Souvent, on parle d'être en paix et on se dit, ben, c'est le bon chemin. Et c'est justement de cette paix-là que Dieu parle, qui dirige nos cœurs. Et ce qui est fou dans ce verset, c'est qu'on est appelé à cette paix, à être dirigé par ce sentiment de paix qui confirme les bons choix. Plus en recherchant la proximité avec Dieu, en entretenant une vie de prière et d'écoute, ça va t'aider à trouver déjà cet endroit de calme, paisible, extirpé de toute sollicitation, bien sûr. Comme dit Matthieu 6, viens dans ta chambre, viens dans le secret, ferme la porte, viens vers ton Père qui est là et qui t'entend. C'est vraiment ça, prendre du recul, retrouver la paix. Et en revenant au texte de Luc 10, quand Jésus a invité Marthe à sortir du sens de son devoir, qu'il le poussait à l'agitation, à l'inquiétude, comme je l'ai dit, je crois que Dieu veut aussi mettre le doigt sur notre sens du devoir à nous. Devoir chrétien peut-être aussi, on aime tellement bien faire. Et de manière humaine, je crois qu'on est assez comme formaté pour fonctionner, pour faire pour Dieu, au lieu d'être pour Dieu. D'ailleurs, toute notre société, elle nous pousse à ça. Au travail, par exemple, je sais pas, mais on a moins de personnel, on nous demande toujours plus de faire certaines choses, et puis finalement, on entre dans du stress. Et dans les soins, j'ai envie de dire, des fois j'ai une tristesse en mon cœur, je ressens dans mon cœur qu'en fait, quand on soigne quelqu'un, c'est pas juste de vite faire des tâches médicales ou quoi que ce soit, mais c'est de prendre la personne en entier. La relation, profiter de trouver cette relation avec les personnes. On est corps, âme et esprit, et on n'a pas juste besoin de s'occuper du corps. Et au fur et à mesure que finalement on doit faire des soins sur le corps, on est sous pression, il y a moins de monde, et en fait on perd le fil de prendre le temps pour la relation. Et c'est tellement triste. Lire la Bible, par exemple, on pourrait lire la Bible. J'aime bien les défis de lire la Bible en une année. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de lire la Bible et d'inviter aussi le Saint-Esprit. Pas juste que ce soit une information intellectuelle, qu'on apprenne des versets par cœur, mais que le Saint-Esprit ait le droit de stopper et nous dire « Je veux te dire ça, je veux te parler aujourd'hui là-dessus. » Investissons-nous pour chercher Dieu, pour chercher à être son ami, plus que tout. Jean 15,15 nous dit « Je vous appelle plus mes serviteurs ». Vous vous rappelez de Marthe qui était un peu dans ce mode service ?« Mais je vous appelle mes amis. » Jésus cherche une amitié avec toi, avec moi. Et qui connaît ce chant « Que toutes les sources sont en toi, Jésus ?» Enfin, je n'ai pas la mélodie, mais il me semblait, il y a un chant qui m'est ressorti dans la tête là quand je préparais le message. Et en fait, c'est ça. Tout débute par notre amitié avec Jésus. C'est de là que sont les sources, la raison du pourquoi tu fais quelque chose. D'abord, être pour entrer dans le faire. Et j'aimerais vous encourager, pour ceux qui ont choisi de prendre le livre « Montre-nous le Père » dans les groupes ressources, parce que c'est droit le but. Vous allez être bouleversés dans votre manière de vivre votre intimité avec Dieu. Ça va t'aider à mettre des jalons pour prendre des temps avec Dieu, pour être juste devant lui. Ça va t'encourager à chercher la bonne part que Marie a trouvée en étant au pied de Jésus. En ce début d'année, j'ai décidé de m'extirper de l'agitation pour retrouver mon calme. J'avais besoin de ça et j'ai senti vraiment cet appel du Saint-Esprit qui insistait, qui me disait « Mais sois intentionnel, mets-toi à part pendant un bon moment. » Alors, je n'ai pas posé les plaques de mes activités, je suis restée active, mais par contre, j'ai posé les plaques devant le Seigneur. Et j'ai mis tout à plat, j'ai pris un temps de jeûne et de prière. J'avais besoin de sortir de cette agitation pour retrouver en fait le sens de pourquoi je faisais les choses, la vision de la portée éternelle, pourquoi les choses auxquelles j'avais des rêves dans mon cœur, ou réévaluer les choses avec le Seigneur, pour revenir à l'essentiel. Et Jésus, dans ces temps que j'ai pu prendre de prière particulière, il a pu aussi me rebooster, m'encourager. Parfois, j'avais ce sentiment de découragement qui était là en fin d'année. J'avais besoin d'être renouvelée dans ma foi. J'avais ce mot « récompenser ceux qui le cherchent ». Jésus récompense ceux qui le cherchent et il nourrit notre foi à nouveau. Hébreux 11:6 nous dit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » C'est une démarche de foi d'aller dans la présence de Dieu. Mais après, mais qu'est-ce que ça fait du bien? On se sent nourri aussi dans notre foi d'être allé vers lui. Plus ton cœur est disposé à chercher Dieu, plus tu arrives à te connecter à lui, plus tu arrives à l'écouter, plus tu arrives à le connaître mieux, plus tu as envie de le vivre, le voir agir. C'est un peu crescendo, voyez? Plus tu as envie de le voir agir dans ta vie, au travers de ta vie, dans l'église, dans ta famille. Et c'est super précieux. Ta connexion à Dieu aura un effet sur ta motivation et ta passion. En d'autres termes, si tu perds le fil dans ta connexion avec Dieu, c'est-à-dire que tu as moins de temps, parce que bien sûr, tu vis une vie de stress, tu as beaucoup de boulot, tout ça, et Dieu, ben voilà, c'est pas forcément facile de placer Dieu, des fois. Je dis que c'est un défi pour chacun, hein. Et je crois qu'on a tendance, dans ces moments-là, d'entrer dans le faire pour faire, par habitude. Alors, ce n'est pas grave, en fait. On est sous la grâce, mais notre motivation va diminuer toujours plus. Puis finalement, peut-être qu'on va même lever le pied. Peut-être s'arrêter de faire certaines choses, s'arrêter de s'engager, et même délaisser son appel. Paul nous dit dans la parole que de ne pas négliger l'appel qui est sur vos vies. C'est vraiment entretenir la relation avec Jésus va te permettre d'être boosté pour ce que tu es appelé à vivre. Ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont confiance en lui, qui ont la foi, s'approchent de l'Éternel, renouvellent leur force. Donc tu n'es pas indemne quand tu te trouves finalement dans la présence de Dieu. Tu es comme un aigle qui prend son envol, tu es reboosté. Et là, il dit le texte, il court, ne se lasse pas, il marche et ne se fatigue pas. C'est un peu un miracle, ça. C'est la vie, on est facilement fatigué. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Tu es ressourcé, tu es remotivé, tu as du zèle qui revient. Et la fatigue, la lassitude s'en va. Et la clé pour ne pas se lasser, finalement, c'est de s'approcher de Dieu. En grec, le mot « lasser » veut dire « yaga », se dit « yaga », veut dire « peiner, travailler dur ». Alors même si tu fais des choses excellentes, même si tu es à fond dans ton appel pour le Seigneur, si tu gardes pas cette relation avec Dieu, les choses deviennent pénibles, les choses deviennent lourdes. Et avec le train de vie d'aujourd'hui, vivre 1000 à l'heure, de journée après journée, de mois en mois, on est déjà presque à Noël dans 10 mois, faire l'espace pour Dieu, c'est important. Rester proche de Dieu nous permet de tenir dans la durée, comme l'a dit Shelley dans son message. Et ce qui est extraordinaire, David travaille, mais Dieu fait un travail plus important dans notre vie. Il nous rend capables de vouloir et de faire des actions qui lui plaisent. Et ça, ça nous stimule. Si vous savez que vous êtes en plein dans ce que Dieu y veut et que ça lui plaît, mais ça te rebooste, ça te redonne la passion et ça prend à nouveau tout son sens. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Je trouve ça un peu spécial, ce thème, non ? Venez acheter, mais sans argent. C'est le prochain thème du message de David, non. C'est un peu un truc space, non ? Mais par contre, c'est deux versets suivants qui m'interpellent énormément. Non, mais pour dire, Dieu nous dit, pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas ? Pourquoi vous fatiguez pour quelque chose qui ne rassasie pas ? Et j'ai envie de dire, en d'autres termes, pourquoi tu fais des choses inutiles ? pourquoi tu t'investis, pourquoi tu achètes des choses qui te... Oui, il n'y a pas de retour sur investissement. La suite dit, écoute-moi bien. Alors, vous aurez de bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille, écoutez Dieu. Venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Et plus courtement dit, j'ai envie de dire ce verset de 1 Corinthiens 10 qui dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et c'est vraiment dans ces moments de calme de se retrouver face à Dieu qu'on réalise en fait qu'il y a des choses qui sont utiles et importantes pour lui et que peut-être que j'ai cédé à la pression de l'urgence et que je me suis occupée de choses qui étaient inutiles. Et c'est ça le danger, de confondre l'urgence qui parfois a une fausse image de l'importance. Ce n'est pas parce que c'est urgent que c'est important. Alors, qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu, pour ma vie, pour ta vie ? Dieu, il désire nous inspirer dans ce qui est essentiel. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et lorsqu'on revoit en fait nos priorités, et là j'ai envie de faire une petite parenthèse, si tu es découragé dans ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu n'es pas dans les priorités de Dieu. Le découragement peut venir aussi dans ce que tu fais, de ce que Dieu il aimerait que tu entres, mais il veut te rebooster, t'encourager tout à nouveau pour que tu puisses continuer. Et ce n'est pas parce que tu es fatigué que ce n'est plus une priorité pour Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez comprise. Des fois, c'est un peu comme on se ressent. Et c'est des fois parce qu'on est super fatigué, découragé, qu'on se dit « Ah ouais, ce n'est plus le temps de Dieu, là, je me retire. » Mais en fait, peut-être pas. Dieu aimerait qu'on le cherche, qu'on cherche conseil auprès de lui. Et il veut nous révéler ce qui est inutile, ce qui est utile. Il veut nous révéler comment on doit faire les choses, la manière de le faire et qu'est-ce qu'on doit faire. Quand on est dans sa présence, on prend conscience aussi qu'on a mis peut-être aussi l'importance sur des choses inutiles, encombrantes et qui nous pèsent. Et qu'on a besoin d'un rééquilibrage du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids du lourd fardeau. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter. Et la charge que je vous impose est légère. Des fois, on perd des forces, nous sommes découragés, parce que finalement, on porte des responsabilités que Dieu ne nous a pas données. On fait des choses inutiles. Par contre, quand on est dans sa pleine volonté, il y a une grâce et une légèreté particulière aussi, et c'est incroyable ce verset, prenez mon joug sur vous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un joug, c'est comme un gros anneau que le bœuf il tient là, enfin, pour ceux qui sont dans l'agriculture, c'était à l'époque, et c'était ce poids-là pour tirer la charrue, c'était un poids. Et en fait, Dieu nous dit, je pose sur toi un fardeau, je pose sur toi, mais en fait, tu trouveras du repos. C'est un peu un paradoxe. Et c'est vrai qu'en aucun cas, Dieu nous charge. C'est nous qui avons tendance à nous charger nous-mêmes et à nous agiter. Et qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu pour ta vie, pour ma vie ? Ben, la responsabilité de Dieu, c'est de prendre soin de toi, de tes besoins. Et ta responsabilité, c'est de faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, ta préoccupation première. Et lui, il s'occupe de tout le reste, comme nous dit Matthieu 6. Quand tes priorités sont dirigées sur ton intimité avec Dieu et faire sa volonté, dans tous les domaines, hein, je ne dis pas que seulement pour servir Dieu dans l'Église, je parle de tous les domaines, ton cœur respire à nouveau. Tu te sens revivre. La vie avec Dieu ne devient pas pesante, mais passionnante. Vraiment. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu veut nous rejoindre pour ceux qui sont dans des temps de fatigue, des temps de stress, pour t'inviter à venir, à demeurer dans cette paix, t'extirper de l'agitation et avoir ce cœur à cœur avec Dieu pour pouvoir réévaluer ce qui est utile, pas utile, à retrouver le sens du pourquoi. Et il veut te redonner des forces, te redonner un zèle, une passion nouvelle, pour te permettre aussi de garder le focus sur sa volonté. Ouais, je crois que Dieu, il veut agir aujourd'hui sur ce domaine-là, en profondeur, parce que finalement, on est dans cette société de stress, on est d'accord. J'aimerais vous inviter maintenant à vous lever. J'aimerais prier. Ce qui est magnifique ce matin, c'est que Dieu a parlé par plusieurs images. Il a parlé de lumière qui venait dissiper les brouillards sur nos vies. Il a parlé d'anges qu'on avait pu voir aussi la dernière fois en vision. Et Dieu aime parler par des choses surprenantes. Des fois, on l'entend dans notre cœur, on a une impression, un sentiment. Mais je crois que Dieu veut parler à chacun ce matin. J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux physiquement, mais en fait à regarder avec les yeux de vos cœurs. Connectez-vous à Jésus simplement qui est là, présent. Merci Jésus parce que nous sentons ta présence dans ce lieu et nous ouvrons nos cœurs et juste là, nous voulons être à ton écoute. Dans mon esprit, je vois des fardeaux et des jougs. Je vois aussi du découragement et je vois de la fatigue. J'arrive à percevoir qu'il y a des rêves, il y a des envies de voir Dieu agir plus encore. Et c'est un peu comme des graines. Puis en fait, par-dessus, il y a ces ronces de soucis, ces roches, ces fardeaux qui sont là, qui empêchent. Comme de cette graine de venir à la surface et de pousser correctement. Et je vois Jésus qui vient vers chacun d'entre nous. Et il prend ces gros cailloux et il le retire de toi. Ces poids que tu portes qui sont inutiles. Et j'entends la voix de Jésus qui dit deux fois ton prénom. Et en fait, l'effet que ça fait quand tu es appelé par Jésus, tu te lèves, ton attention est attirée et tu relèves la tête. Relève la tête. Il est juste là devant toi et je vois ses bras qui sont grands ouverts. Et il t'invite simplement à te laisser embrasser et sécurisé dans sa présence. Ouh, il y a des vagues d'amour qui te touchent maintenant en ce moment, dans ton cœur. Laisse-le te toucher. Laisse-toi aimer. Il est en train de réveiller la passion. Déjà pour lui, pour les autres, mais aussi pour toi-même. Tu t'es oublié dans ce que tu t'es investi tellement que tu t'es oublié. Jésus est en train de restaurer la valeur que tu as. Il te montre tellement son amour pour toi. que ça touche ton estime profonde de qui tu es. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Alors qu'il n'y avait rien dans ta vie, ta relation avec Jésus, alors que tu ne vivais rien, Dieu veut se manifester à toi d'une manière nouvelle et puissante. Cherche-le de tout ton cœur. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de te mettre à cœur d'être intentionnel dans tes temps et d'amener une fréquence. Peut-être des temps plus fréquents, mais aussi des temps plus longs dans sa présence, parce qu'il veut faire une œuvre en toi. Profonde. Que tu sois. Tu es sa priorité et qu'il soit ta priorité. Que tu puisses retrouver la paix. Amen.